L'EM, l'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour à tous et bienvenue dans L'EM, l'émission. Le L'EM active le mode sport une fois par mois et devient le L'EM Sport. C'est magique. Et pour co-animer cette émission, nous retrouvons Fred Sévère. Bonjour Fred.
Bonjour.
Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Fred ?
Aujourd'hui, avec notre invité Pierre-Yves Guéguer, on va parler du Brest Urban Trail, un trail urbain qui se déroulera sur 3 jours, le 18, 19 et 20 avril prochain.
Parfait. Et juste avant de retrouver notre invité, nous retrouvons Hugo pour les actus sportives bretonnes en long et en large.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Transistor, vous écoutez les évadés du sport, votre flash autour de l'actualité sportive bretonne. Au sommaire de votre flash du mois de mars, le FC Lorient a 9 matchs de retrouver l'élite du football français, le Brest Bretagne Handball et Metz qui ne se quittent plus dans la course aux trophées nationaux cette saison, et enfin la première place des Béliers de Quimper en National 1 masculine de basket. On débute ce flash avec le football. À 9 rencontres de la fin du championnat, le FC Lorient est en tête de la Ligue 2 et espère valider le plus rapidement possible sa remontée immédiate en Ligue 1. Un an après sa descente pour un tout petit but lors de la dernière journée. C'est porté par une attaque de feu et une capacité à renverser le scénario des rencontres en fin de match que les hommes du technicien corse Olivier Pantalone se déplacent sur le terrain de leur dauphin au classement, le Paris FC, ce samedi 8 mars à 14h. L'opportunité pour le meilleur buteur Eli Junior Croupi et le capitaine Laurent Abergel d'également creuser l'écart sur leurs poursuivants que sont Dunkerque et Metz. Toujours très homogène, l'antichambre du football français voit à l'issue de la saison, pour rappel, les deux premiers monter directement, tandis que les 3e, 4e et 5e s'affrontent pour se qualifier pour des barrages d'accession face au 16e de Ligue 1 lors d'un match aller-retour. Place au handball, les filles du Brest Bretagne Handball continuent leur quête de victoire dans toutes les compétitions cette saison. Les joueuses de Raphaël Tervel se sont qualifiées tranquillement pour les demi-finales de la Coupe de France après une victoire facile à l'extérieur contre Dijon. Les Finistériennes retrouveront dans le dernier carré de la Coupe leur bête noire Messine. En effet, Metz et le BBH se livrent une bataille acharnée pour le titre de championne de France en D1 féminine. Au match aller, Metz s'est imposé d'un but, laissant d'énormes regrets et une obligation de résultat au match retour pour les partenaires de Pauleta Foppa. Coralie Lasource et sa bande auront donc l'occasion de prendre une première belle revanche lors de la demi-finale de Coupe de France qui aura lieu le 5 avril. Par ailleurs, on connaît désormais l'adversaire des Brestoises en 8e de finale de la Ligue des Champions. Il s'agira de l'équipe croate de Podravka. Le match aura lieu les week-ends du 22 et 29 mars, avec un match retour en Bretagne. L'objectif européen du club est de se mêler à la lutte pour la victoire finale. Prochain rendez-vous pour Brest, d'abord en D1 féminine, le 15 mars face à Nice pour rester dans la course au titre. Parlons désormais basket. Les Béliers de Quimper occupent la première place de la National 1 masculine durant cette deuxième phase de la saison. Les joueurs de Thibaut Wojcicki peuvent donc envisager sérieusement de retrouver la Pro B l'an prochain. La semaine passée, les Quimperois ont facilement disposé de Louhans Plage à domicile sur le score de 81 à 66. Malgré un manque de rigueur défensive relevé par l'entraîneur, l'arrière Hugo Dumortier a su porter son équipe et la satisfaction demeure pour le coach des Béliers qui s'est toutefois permis de réclamer plus de soutien populaire pour la fin de saison à venir, ajoutant que son équipe méritait une salle pleine et que l'ambiance à Michel Glohagain ne reflétait pas leur statut de leader. À 13 matchs de la fin, Wojcicki appelle également son groupe à faire preuve d'humilité. Merci à tous d'avoir suivi votre flash des évadés du sport. Tout de suite, vous retrouvez Pierre-Yves et Fred et leur invité pour le début du L'EM Sport. On se retrouve tout à l'heure pour la météo.
Et merci Hugo, effectivement, on te retrouve tout à l'heure pour ta météo. Et c'est l'heure de découvrir le Brest Urban Trail avec ton invité Fred. Nous sommes aussi avec Pierre-Yves Guéguer, cheville ouvrière et membre organisateur du Brest Urban Trail.
Oui, bonjour Pierre-Yves. Alors, moi j'avais une première question. Depuis quand existe le Brest Urban Trail et quels sont les formats de course qui nous attendent le 18, 19 et 20 avril ?
Alors le Brest Urban Trail existe depuis 2017 et nous allons donc organiser la quatrième édition puisque c'est une course qui a lieu tous les deux ans. Et cette année, nous avons donc décidé de mettre en place de nouvelles courses et de nouveaux formats. Donc l'événement démarrera le vendredi soir avec un contre-la-montre de 3,5 km pour lequel des inscriptions sont encore possibles. Le samedi, il y aura donc des courses enfants à partir de l'âge de 4 ans. Voilà, sur inscription. Et puis ensuite, un 10 et un 20 km le samedi soir. Et enfin, le dimanche matin, un 4 km et un 8 km inclusif et accessible à tous, ainsi qu'un 15 km, un 30 km et un 15 km en duo. Sachant qu'il y a possibilité de faire un challenge qui s'appelle la brute et qui donc consiste à courir le 20 km du samedi soir et le 30 km du dimanche matin.
Oui, oui, ça fait un sacré menu là.
Ça donne envie, hein, il reste des places, Pierre-Yves.
Oui, il reste de la place sur la brute, très peu, parce que quasiment toutes nos courses sont complètes, mais il reste un petit peu de place.
Alors sur le nom déjà, le brut, donc le Brest Urban Trail, donc un trail urbain, ça ne va pas de soi, mais quelles sont un peu les origines, puis les valeurs de ce trail? Parce qu'il me semble que l'éco-responsabilité, l'accessibilité, l'inclusion, la découverte de la ville, tout ça, ça fait partie des choses qui vous animent.
Tout à fait. Alors en fait, le Brest Urban Trail a démarré en 2017 et était organisé par une bande de copains qui, à l'origine, avaient envie de rendre aux autres organisateurs ce que l'on vivait de sympa sur les courses le week-end. Et donc, on a eu envie d'organiser quelque chose sur Brest et qui corresponde à nos valeurs. Et puis donc, on est parti d'une page blanche en 2017 pour créer le Brest Urban Trail. Et effectivement, le projet a évolué puisque nous avons démarré avec 1250 coureurs et cette année, nous devrions être aux alentours des 8500 coureurs, qui fait de nous le premier événement running dans le Finistère. Les valeurs effectivement du Brest Urban Trail, ce sont des valeurs d'inclusion avec un axe fort cette année puisque nous avons décidé de mettre en place deux courses exclusivement inclusives de 4 et 8 km accessibles à tous parce qu'on veut que le Brest Urban Trail soit vraiment une course du territoire brestois pour les Brestois et les Brestoises et pour les Finistériens et les Finistériennes.
Et dans cet objectif-là d'inclusion, il y a aussi des conférences qui sont organisées autour du sport santé. Et ça commence bientôt, bien en amont du Brest Urban Trail, techniquement, quoi.
Tout à fait. En fait, le Brest Urban Trail, c'est un projet global, un petit peu comme une dissertation avec une introduction, un développement qui est l'événement le jour J et puis ensuite une conclusion derrière avec une remise de prix, mais on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Quoi qu'il arrive, effectivement, nous organisons des conférences autour du sport santé en amont de l'événement. Et donc, ce cycle de conférences a déjà démarré depuis le mois d'octobre et la dernière de ces conférences aura lieu vendredi prochain. Avec la présence d'un coureur atteint de la mucoviscidose qui a participé, et l'histoire est belle, à la première édition en 2017 avec un staff médical de Peraridi.
Elles ont lieu où ces conférences ?
Alors ces conférences ont lieu chez nos partenaires, donc soit au lycée du Puy-de-l'Homme, soit à l'Université de Bretagne Occidentale et la prochaine a lieu à l'UBO.
Et je crois que sur les conférences, il y en a déjà certaines qui ont eu lieu. Une sur la préparation mentale dans le sport et puis une autre qui m'a interpellé sur la question des violences sexuelles dans le sport en direction des enfants.
Tout à fait. On avait le souhait d'ouvrir ces conférences à un public très large. On ne voulait pas être spécifiquement sur un axe course à pied. Et donc, on a fait intervenir l'association Colosse au pied d'argile qui intervient au niveau national depuis plusieurs années sur la prévention des violences sexuelles dans le sport.
Comment ça s'organise toutes ces courses? Parce qu'on imagine qu'il y a plein de trajets, il y a plein de possibilités dans Brest même de réaliser plusieurs parcours. Ça se réfléchit combien de temps à l'avance? Parce que c'est un événement qui a lieu tous les deux ans, c'est ça?
Tout à fait. Alors notre événement a lieu tous les deux ans pour diverses raisons. La première raison, c'est qu'on est une organisation 100% bénévole. On a zéro salarié, zéro alternant, zéro stagiaire, même si on en a eu par le passé. Donc aujourd'hui, notre organisation nous oblige à être sur un événement tous les deux ans parce que c'est 18 mois de préparation. À titre d'exemple, pour l'événement qui a lieu le 18, 19, 20 avril, on a déjà démarré depuis janvier l'an dernier. L'autre souhait de notre organisation tous les deux ans, c'est aussi de ne pas solliciter nos partenaires trois mois après la fin de notre événement. En organisant un événement tous les deux ans, ça permet à nos partenaires de donner leur participation économique et financière à d'autres associations qui en ont besoin sur le territoire de Brest. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait que ce soit aussi une course de territoire. Et enfin, dans notre organisation, donc on a démarré, on était environ 10 personnes et aujourd'hui nous sommes 25 personnes dans l'organisation avec une structuration, avec des pôles très précis, pôle communication, un pôle partenariat, un pôle parcours qui trace les parcours. Et ils ont du boulot, je peux vous dire, ouais, avec les travaux sur Brest.
Qu'est-ce qui attend justement les coureurs? Parce qu'il y a des originalités quand même. Moi, je sais que je n'ai pas encore couru. J'ai assisté aux conférences il y a 2 ans, hein, notamment sur la résilience avec Glorify. Mais il y a quand même des endroits originaux. Enfin, ceux qui vont, ils vont découvrir des endroits.
Joker. Je dis joker parce que les parcours sont tenus secrets. Pour la petite histoire, ils sont tenus secrets parce que lors de la première édition, nous étions en état d'urgence et la préfecture nous avait demandé de tenir les parcours secrets. Et puis depuis, c'est ce qui fait un petit peu l'âme du Brest-Urban Trail, c'est qu'on garde les parcours secrets. Mais effectivement, ce que je peux vous en dire, c'est qu'il y aura encore de nouvelles découvertes, de nouveaux lieux traversés, des anciens lieux aussi traversés par la course par le passé. Mais en tout cas, il y aura de la nouveauté, il y aura des escaliers, il y aura
des lieux atypiques. C'est du dénivelé avec des escaliers, donc ça, c'est pas simple pour les coureurs. Non. Mais on peut dire quand même que dans les années précédentes, il y a eu le Stade Francis Leblay, il y a eu Océanopolis, il y a eu des choses comme ça par le passé quand même.
Alors effectivement, l'objectif de notre Urban Trail, c'est de faire traverser ou courir les joggers dans des lieux connus de Brest. Effectivement, on a eu aussi par le passé les souterrains de l'hôpital Morvan, l'UBO, la caserne des pompiers, avenue Foch. Enfin, effectivement, il y a des lieux emblématiques et on n'a pas la prétention de découvrir entièrement Brest. Mais il y aura bien entendu des nouveautés comme par le passé, mais je ne vous donne aucun détail sur les parcours.
C'est secret.
Il y a aussi des partenaires aussi dans la boucle. On ne peut pas faire un événement comme celui-ci sans partenaires. Là, ils sont de quel ordre ?
Alors nous avons deux niveaux de partenariat. On a du partenariat économique sous forme de mécénat, puisqu'en fait notre association est reconnue d'utilité publique, donc on ne parle pas de sponsoring mais de mécénat, ce qui est important pour nos partenaires. Et nous avons des partenaires institutionnels qui sont de l'ordre du soutien administratif, comme par exemple la ville de Brest et son service des sports, mais aussi l'université de Bretagne occidentale et d'autres partenaires sans qui la course ne serait pas possible en fait.
Et d'un point de vue logistique aussi, vous devez avoir sans doute besoin de bénévoles, j'imagine.
Complètement. Alors, sur la première édition, on était aux alentours des 300 bénévoles et puis on est monté petit à petit en puissance. Et aujourd'hui, donc Nathalie, Gaëlle et Anne-Sophie qui gèrent le pôle bénévole sont à la recherche de 800 bénévoles. Alors, ça marche plutôt bien puisqu'aujourd'hui, nous avons 500 bénévoles inscrits. Mais il nous en manque un petit peu quand même, de l'ordre de 250 à 300 pour le samedi soir et le dimanche. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire en tant que bénévole. Nos bénévoles sont très, très bien reçus. Sont choyés, sont accueillis par une équipe dynamique parce que on peut proposer le plus beau format de course, mais sans bénévoles, rien n'est possible. Donc c'est important que nous ayons le nombre de bénévoles, mais vous pouvez compter sur nous pour bien vous accueillir. Et petite précision, on peut courir le samedi soir et être bénévole le dimanche et l'inverse aussi. C'est une manière de vivre la course autrement.
On le répète jamais assez, on le redit souvent dans l'émission, mais c'est vrai qu'au 2025, mais les années précédentes, hein, c'est dur de trouver des bénévoles, donc c'est vrai que c'est bien de le rappeler. Il y a des places à prendre, et qu'est-ce qui peut attendre les bénévoles, par exemple, comme type de poste, pour qu'ils sachent un peu si les gens sont intéressés ?
Alors, nos postes bénévoles, ce sont principalement des postes de jalonneur. Donc, être jalonneur, ça consiste à être présent sur l'espace public pour guider les coureurs et pour leur permettre de vivre leur course et le parcours le plus sereinement possible. Donc, ce sont des postes qui nécessitent une présence importante, hein, puisque en tant que jalonneur, il faut être au minimum présent à 8h le matin et ça peut aller jusqu'à 13h lors du passage des derniers coureurs. Mais nous avons aussi des besoins sur le village partenaire qui a lieu au Capucin. Nous avons des besoins pour la gestion de l'espace bénévole, des besoins pour la restauration, enfin différents postes. Mais les postes principaux, ce sont des postes de jalonneur pour lesquels peu de compétences techniques sont demandées, simplement de la bonne volonté, un grand sourire et une envie de bien faire les choses. Mais quand on est bénévole et qu'on vient au Brest Urban Trail, on ressort en général avec l'envie de revenir.
En tout cas, l'appel est lancé. Alors, moi, je me posais, on a parlé un peu de la question de l'inclusion, mais il y avait aussi une autre dimension qui m'interpellait, c'était la question de l'éco-responsabilité. Comment vous la concevez et en quoi le Brest Urban Trail est éco-responsable ?
Alors, le Brest Urban Trail n'a pas la prétention d'être une course et d'être des ayatollahs de l'écologie, mais on essaye par exemple sur nos ravitaillements de limiter tout ce qui est déchets plastiques. Donc par exemple, sur nos ravitaillements, il y aura des barres à eau fournies par Eau du Ponant dans le cadre d'un partenariat. On va limiter tout ce qui est... il n'y aura pas de verre en plastique. Voilà, chaque coureur devra amener son propre verre. Sur nos ravitaillements, on veut que les coureurs passent un bon moment après la course, mais on ne travaille qu'avec des partenaires locaux. issus de l'industrie, enfin pas de l'industrie, issus de l'artisanat, voilà. Et on essaye vraiment sur ce genre d'événement de d'être vraiment sur du circuit court en fait, plutôt que sur une dimension écologique au sens large du terme. Mais on veut vraiment être sur du circuit court. Et puis voilà quoi.
En parallèle de la course aussi, il y a un village qui est organisé, qui est un petit peu le centre névralgique. À quoi il ressemble ce village un peu centre du festival? C'est un festival en fait quasiment.
Alors non, c'est une foire à la saucisse, je blague, bien entendu. Non, effectivement, tous les ans, on a la volonté de monter un village pour nos partenaires, mais aussi un village avec des animations donc sur les Capucins. Donc nos partenaires pourront, pour certains, avoir un stand, mais il y aura aussi de nombreuses animations axées autour du sport pour toutes les catégories d'âge, j'ai envie de dire de 7 à 120 ans, ou presque, avec des animations, des stands sur le village, avec l'UFOLEP qui sera présent. Présente notamment la maison Sport Santé de Brest, des sensibilisations handisport, puisqu'on a un partenariat avec Brest Handisport. Enfin, voilà, il y en aura vraiment pour tous les goûts. Et il y aura aussi une exposition avec un projet graphe, puisqu'on a monté un projet graphe en partenariat cette année autour du sport et de l'inclusion.
Et c'est vrai que quand on parle de compétition sportive comme ça, est-ce que vous la concevez comme une compétition et est-ce qu'il y a des noms clinquants qui viennent ou est-ce que justement vous avez une philosophie particulière par rapport à la participation de gens de tout niveau justement?
Alors notre volonté au niveau de l'Urban Trail, ce n'est pas d'avoir des noms claquants. On veut vraiment que ça soit un événement populaire, accessible à tous et à toutes pour tous les Brestois et Brestoises. Donc on n'a pas de noms claquants, ou en tout cas, une chose est certaine, c'est que nous ne rétribuons pas de coureurs pour venir. Maintenant, si des coureurs au-dessus du lot viennent, tant mieux, et il y en a eu par le passé, mais ce n'est vraiment pas notre volonté, quoi. On veut vraiment que ça soit pour tous et pour toutes. Mais effectivement, ça reste une course compétition. Donc il y a un classement, il y a une remise de prix, voilà, il y a un certain nombre de choses, mais ce n'est pas l'idée première du projet. Mais c'est une compétition sportive, effectivement.
Voilà, on va reparler des sportifs, peut-être revenir aussi sur le côté inclusion avec la présence de Jérôme Charron et Sandra Hamon, qui sont atteints tous deux de mucoviscidose. Que représente cette course pour eux?
Bah pour Jérôme, ça représente quelque chose d'assez fort, je pense. Enfin, je ne vais pas parler à sa place, hein, mais j'imagine que ça représente quelque chose d'assez fort dans sa vie de malade, puisqu'il a été coureur du Brest Urban Trail avec un staff médical de Peraridi, comme je l'expliquais par le passé. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis Jérôme a créé une association dans le but de promouvoir le trail. Et par le passé, effectivement, nous avions reversé une partie de nos bénéfices à son association. Donc je pense que le Brest Urban Trail est ancré de manière très positive dans sa vie. Et puis, à travers le Brest Urban Trail, on a réussi à démontrer que le sport santé, c'était pas qu'un concept, c'était quelque chose aussi qui existait, qui était pertinent et qui pouvait être accessible à tous en se donnant les moyens de le faire correctement.
C'est quoi les retours marquants des participants que vous avez pu avoir des précédentes éditions qui illustrent l'impact positif que peut avoir le Brest Urban Trail?
Et bah, le principal retour marquant, c'est que, alors pour la petite histoire, lors de la première édition, toutes nos inscriptions ont été prises d'assaut en une nuit. Lors de la deuxième édition, les inscriptions ont été bouclées très très vite. Et aujourd'hui, on monte de manière exponentielle puisqu'on est à 8000 inscrits. Donc les gens ne se battent pas pour venir au Brest Urban Trail parce qu'on a réussi à développer une stratégie qui nous a permis de ne pas bouchonner sur les inscriptions. Mais aujourd'hui, notre événement est énormément sollicité. Et puis, c'est un moment fort de la saison sportive à Brest et c'est devenu un événement incontournable aujourd'hui. Voilà. Alors les retours, j'en en ai pas en particulier, mais si je listais à travers les réseaux sociaux l'ensemble des retours positifs que l'on a eus, c'est assez impressionnant. Mais nous-mêmes, en tant qu'organisateurs, on ne s'en rend pas forcément compte parce que quand on a le nez dedans, en fait, on manque parfois de recul.
Ouais, alors c'est vrai que tu faisais référence, mais c'est aujourd'hui les courses sont prises d'assaut et quand les inscriptions s'ouvrent, généralement les gens disent « Ah, j'ai pas réussi à avoir de place, c'est compliqué » et ça coûte souvent très cher de s'inscrire maintenant à des épreuves sportives type trail. Vous, est-ce que vous avez une politique tarifaire qui diffère des autres ?
Oui, nous on a une politique tarifaire qui diffère des autres. Alors on a réussi à avoir une politique tarifaire qui nous fait avoir un prix un petit peu plus cher qu'un euro du kilomètre, mais on est loin des tarifs prodigués par d'autres structures professionnelles ou même par d'autres courses dans le Finistère. Donc nous, effectivement, on a une politique tarifaire qui est peu élevée, mais parce qu'on a la chance de pouvoir drainer aussi un grand nombre de partenaires économiques sans qui rien ne serait possible là aussi et qui jouent le jeu et qui nous permettent d'avoir une course accessible à tous.
Oui, Fred.
Ben justement, oui, c'est vrai qu'il faut le rappeler aussi, vous êtes 100% bénévole, vous n'avez pas de grosse structure d'organisation derrière, donc c'est un gros boulot, mais c'est aussi peut-être une garantie pour vous aussi aujourd'hui de fonctionner comme ça, ou en tout cas, c'est une volonté.
Alors c'est très difficile d'y répondre parce que je pense qu'on arrive un petit peu à la limite de notre système aujourd'hui avec 8500 inscrits. Ce matin, là, au moment où je vous parle. Mais il est trop tôt pour tirer un bilan. En tout cas, voilà, nous, le bénévolat, c'est quelque chose qu'on a tous dans l'équipe organisatrice ancré en nous. Modestement, on est quand même assez fiers de ce qu'on arrive à faire. Mais effectivement, on voit bien que d'autres courses plus modestes reposent sur un système professionnel. Mais en tout cas, nous, on ne veut pas tomber là-dedans. Quoi. Pas pour l'instant, en tout cas.
Eh bien, merci beaucoup, Pierre-Yves Guéguin, d'être venu jusqu'à nous présenter. Oui,
je tenais juste à préciser en termes d'inclusion. Alors, je n'en ai pas parlé rapidement, mais on a un projet aussi avec l'inclusion. Pour nous, ce n'est pas que le handicap physique ou psychique. Nous avons la volonté cette année aussi de permettre à des jeunes issus de quartiers prioritaires de participer à l'événement. Donc, on a une équipe de jeunes accompagnés par Sport et Quartier, le dispositif de la ville de Brest, qui vont participer à l'Urban Trail et qui seront entièrement équipés par un de nos partenaires pour participer à cet événement. C'est vraiment l'inclusion au sens large qui nous intéresse.
Et on rappelle donc le Brest Urban Trail, 4e édition du 18 au 20 avril 2025. Et pour clore ce LEM, on retrouve Hugo pour sa météo sportive du mois dédiée aux polémiques de l'arbitrage comme promis.
Merci beaucoup.
Pierre-Yves, Fred, pour cette météo, j'aimerais vous parler d'erreurs et d'injustices, celles que les êtres humains produisent chaque jour, bien au-delà des simples arbitres. Il y a une dizaine de jours, le président de l'Olympique de Marseille s'est rendu coupable d'une saillie verbale, lui valant 15 matchs de suspension. En effet, après une défaite 3-0 de son équipe à Auxerre, Pablo Longoria a explicitement évoqué l'idée que le corps arbitral de la Ligue 1 serait corrompu. Ses propos ont donc suscité l'indignation générale ainsi qu'une sanction. Il est bon malgré tout de les remettre en perspective et d'y réfléchir ensemble. D'abord, il faut, je crois, souligner l'aspect désobligeant du spectacle une nouvelle fois proposé par les dirigeants du football français. Ils sont à la fois irresponsables et déconnectés. Irresponsables pour une raison simple. De telles accusations ont bien évidemment mis en danger dans la foulée collectivement les arbitres de l'Hexagone, de l'Opérec à Paris. Alors, comme tous les supporters, il m'est sans doute arrivé à plusieurs reprises d'hurler dans un stade contre celles et ceux qui font la loi, pris par les affects, l'émotion et la frustration. Des sentiments qui habitent plus qu'un autre le peuple footballistique marseillais, dans une période où le plus grand club français de l'histoire ne gagne plus de titres depuis 15 ans et par-dessus le marché subit la domination sans partage du grand méchant loup qu'est le Paris Saint-Germain. Pablo Longoria sait très bien sur quel mécanisme appuyer en cas de contre-performance notoire de son club. Et pour tous les dirigeants du monde du sport, amateurs comme professionnels, les arbitres restent malheureusement les fusibles idéaux. Loin de moi l'idée de faire de la démagogie, mais il apparaît comme un élément factuel pour nous, les passionnés de sport, que seul le football se comporte ainsi avec l'arbitrage, d'où l'idée de pointer cette déconnexion. Souvenez-vous, en octobre 2023, quand l'équipe de France de rugby s'est inclinée d'un point contre l'Afrique du Sud en quart de finale de sa Coupe du Monde, et que la prestation de M. Ben O'Keefe a influencé notoirement le scénario de la rencontre en défaveur des Bleus, les débats se sont concentrés sur le fond des décisions. Des discussions houleuses ont eu lieu entre les experts. Mais Fabien Galthié, le sélectionneur, contrairement à ses joueurs, ne s'est jamais avancé pour critiquer les décisions prises, comme s'il était dans l'obligation de respecter une barrière d'autorité qui ressemble à une norme partagée dans le monde de l'Ovalie. Alors malgré tout, ne comptez pas sur moi pour faire l'éloge de l'autorité absolue. Je ne suis pas devenu Bruno Retailleau. Et c'est d'ailleurs en interviewant un autre Bruno, Bruno Derrien, ancien arbitre international sur Transistor en 2022, avec mes camarades de Plougastel, qu'il m'est apparu sincèrement évident que les arbitres des décennies précédentes étaient mille fois plus transparents que ceux d'aujourd'hui. En premier lieu parce qu'ils devaient résister dans les années 90 à de véritables tentatives de corruption et qu'ils étaient pour cela dépourvus d'assistance vidéo et parfois de quatrième assistant. Alors ce qui nous irrite, c'est ce qui s'apparente dans le ballon rond à une forme de mépris de classe. Car à l'heure actuelle encore, Clément Turpin et sa clique refusent de s'abaisser à expliquer leurs décisions au gueux des tribunes et des télévisions. Ils refusent également que l'on puisse entendre leurs échanges avec les protagonistes. Parfois même, c'est le simple fait de leur parler qui n'est pas autorisé aux journalistes. En 2025, quand on occupe un rôle social exposé, rester mutique est totalement incompatible avec l'attente des acteurs. Malgré tout, il faut notoirement rappeler aux présidents, aux entraîneurs, aux joueurs que lorsqu'ils ratent des mercatos, des changements en cours de match ou encore des occasions de but, rien ni personne ne les accuse d'être achetés. Et surtout, surtout, on ne les menace pas de mort, eux. Comme souvent, parce qu'ils n'intellectualisent rien, contrairement à leurs homologues des autres sports, ceux qui façonnent notre passion, des dirigeants de la Ligue jusqu'aux techniciens, oublient souvent que le silence et la condescendance ne peuvent qu'attiser la colère et amener à sentir l'odeur de l'essence.
L'EM, l'émission, l'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.